Climat, l'échauffement des esprits, Benoît Rito, Richard Fremder.
Bienvenue pour ce troisième numéro de Climat, l'échauffement des esprits, toujours en compagnie bien sûr de Benoît Rito. Bonsoir Benoît. Alors ce soir, nous sommes en direct via Facebook, évidemment, vous l'avez tous vu, avec certainement de nombreux internautes qui ne connaissent pas votre association, qui ne savent pas ce que c'est que les climato-réalistes. Alors peut-être Benoît, c'est le moment de rappeler en quelques mots, avant d'accueillir nos invités, rappelez-nous ce que vous êtes, ce que vous faites, et quel est votre combat, si on peut dire.
Donc les climato-réalistes, c'est une association qui a été créée il y a maintenant un an, tout juste un an, et qui essaye de promouvoir un discours un petit peu différent sur ce qu'on entend au sujet du climat, un discours un peu apaisé, un peu dépassionné, qui ne sombre pas dans l'alarmisme et qui essaye d'être au contraire de montrer que les choses ne vont pas si mal sur le plan du climat, pour plusieurs raisons. Donc l'alarmisme n'a pas lieu d'être, c'est tout du moins ce que nous pensons collectivement dans cette association. Donc on estime que le climat ne montre rien de bien particulier aujourd'hui par rapport aux évolutions naturelles qu'il a pu connaître. Le climat n'est pas quelque chose de figé, il change comme il a toujours changé et comme il changera encore demain. Les prophéties ou les pronostics, les prévisions qui sont faites pour le 21e siècle ou le 22e siècle sont fondées sur des modèles qui sont peu ou pas validés. Pour l'instant, ce qu'on observe par rapport à ce qui a été annoncé, c'est un petit peu le jour et la nuit.
Effectivement. Donc, vous êtes ouvert au débat.
Voilà, on voudrait pouvoir débattre sereinement de ce genre de choses, sans être catégorisé comme on l'est parfois, et présenter nos arguments de façon loyale, simplement.
D'où la naissance de Climat, l'échauffement des esprits, donc troisième numéro. Alors ce soir, nous avons avec nous Rémi Prudhomme, que nous avions reçu dans l'émission précédente sur les énergies intermittentes. Bonsoir Rémi Prudhomme.
Bonsoir.
Vous allez bien ?
Ça va bien.
Bon, impeccable. Et comme c'est une émission un peu spéciale, nous avons ce soir deux invités, puisque nous recevons Drieu Godfridi, docteur en philosophie, s'il vous plaît, à la Sorbonne, bravo, c'est la meilleure, et spécialiste du droit fiscal. Bonsoir Drieu Godfridi.
Bonsoir.
Je rappelle quand même que les internautes peuvent poser ce soir des questions. Je vais essayer de me charger de les relayer au fil de l'émission, on va voir ça. La règle ici est très simple, on accepte le débat, mesdames, messieurs, tous, on est d'accord, pour peu qu'il soit argumenté, évidemment, parce que les phrases un peu choc qui servent à rien, on ne les acceptera pas. Alors, on a malgré tout, vous allez poser des questions bien sûr, mais on a choisi un thème ce soir qui est la peur climatique face à la nouvelle donne politique. Nouvelle donne aux États-Unis, nouvelle donne avec Donald Trump évidemment, nouvelle donne en France avec Emmanuel Macron et surtout la nomination récente, je dis ça en rigolant mais je ne sais pas pourquoi je ris, de Nicolas Hulot comme ministre de la Transition énergétique et solidaire, c'est le titre exact de son portefeuille. Première question messieurs, alors que le temps devient épouvantable, première question messieurs, est-ce que le pouvoir politique peut influer réellement sur la peur du public ? Ça vous laisse quoi ?
Vas-y.
On peut répondre tous en même temps.
Oui, le pouvoir politique influe sur la peur en reprenant à son compte des idées qui traînent, en les répandant, en contrôlant tout ce qui se dit sur le sujet. Et il a un grand intérêt à le faire parce que si tout va mal, on a besoin d'hommes politiques pour nous sauver, pour nous protéger. Il est donc de l'intérêt, un intérêt normal de la part des politiciens à dire que la situation est très mauvaise. C'est d'ailleurs vieux comme le monde. Les politiciens ont toujours utilisé les menaces. Autrefois, c'était principalement les menaces d'intervention étrangère qui étaient utilisées à cette fin, éventuellement créées à cette fin. On sait bien qu'il y a mille exemples dans l'histoire de politiciens qui ont assis ou renforcé leur pouvoir en se présentant comme les défenseurs de menaces qu'ils avaient eux-mêmes contribué à répandre et à créer. Et donc c'est ce qui se passe largement dans le domaine du climat. Il n'y a là rien de très nouveau.
Avec comme cette spécificité dans le cas du climat, c'est que ce dossier permet à l'homme politique de se revendiquer de la science. Il lui permet de se présenter comme étant l'expression de la science, dure, objective, contre les intérêts finalement égoïstes et catégoriels de l'industrie. Donc de ce point de vue-là, c'est une sorte de voie royale qu'offre cette idéologie du climat aux hommes politiques. Et par ailleurs, juste pour compléter cette réponse, cela donne également la possibilité de justifier, et historiquement, maintenant depuis une vingtaine d'années, c'est le cas, toute une nouvelle génération de taxes et d'impôts qui n'existaient pas auparavant et qui n'ont pas remplacé d'autres impôts, qui se sont simplement ajoutés aux impôts existants, encore une fois, au nom de la science. Qui pourrait contester un nouvel impôt lorsqu'il s'agit simplement de l'expression, c'est comme ça qu'on le présente, de la science ?
Benoît. Donc là, effectivement, ce que dit Drieu est tout à fait vrai. On a un exemple, un nouvel exemple qui n'est pas le premier du genre non plus, d'alliance entre le scientifique et le politique, où une sorte de gagnant-gagnant entre une communauté scientifique qui peut profiter d'un accroissement de son influence, de son importance et de sa visibilité médiatique, et effectivement un personnel politique qui peut prendre des décisions adossées à la science et donc à quelque chose qui est aujourd'hui très valorisé. Et les exemples historiques antérieurs de ce genre de choses montrent que ça peut tenir un certain temps, mais c'est toujours au détriment de la science. La science perd parce qu'elle les scientifiques pensent très souvent, très volontiers, que leur savoir technique, leurs compétences et leur intégrité les met à l'abri de la récupération, de l'idéologie et du dévoiement de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Et or, en réalité, quand ils s'aventurent sur le terrain médiatique, sur le terrain politique ou sur le terrain économique, ils s'aventurent dans des terrains qui ne sont pas les leurs, qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne connaissent pas les codes. Et ils sont généralement les dindons de la farce. Et on en a plein d'exemples au XXe siècle, qui sont en général des exemples d'ailleurs qui peuvent être assez tragiques. On n'est pas dans un exemple aussi tragique, effectivement, même si ça coûte de l'argent, même si ça nous fait perdre du temps, même si ça retarde probablement la marche de la science et que ça distrait d'autres questions qui devraient avoir plus de place dans le débat public. Mais on est quand même dans cette lignée-là de relations incestueuses, de relations malsaines entre le scientifique et le politique, où on a même vu, il n'y a pas très longtemps, la marche pour les sciences, qui était organisée le même jour que le jour de la Terre, où les scientifiques ont carrément dit, donc il y avait une déclinaison française de ça vient des États-Unis, la déclinaison française c'était « nous voulons forcer les politiques à prendre des décisions adossées sur la science ». C'est-à-dire qu'en gros, il y avait une tentative de prise de pouvoir, donc très naïve évidemment, parce qu'on ne leur donnera pas ce pouvoir-là, mais on voit qu'ils se font déborder par leur propre jeu.
Alors pardonnez-moi, mais qui est le leader de cette pensée, entre guillemets? C'est les politiques d'abord ou c'est les scientifiques?
Ce sont toujours les politiques dans ces cas-là. Pardon, je vous laisse peut-être...
Non, mais c'est ce que je voulais dire, c'est un système. Chacun s'appuie sur l'autre. Un certain nombre de scientifiques, les politiques, les intérêts industriels, les médias, tous ces gens, tous ces groupes, tous ces corps... s'appuient les uns sur les autres, se renforcent les uns sur les autres. Alors qui est-ce qui a commencé? On peut discuter longuement là-dessus. Je crois en effet que le rôle clé dans la question du climat qui nous préoccupe ici vient des politiciens. Ce sont un certain nombre de scientifiques qui ont convaincu un certain nombre de politiciens de premier plan, notamment aux États-Unis, en Suède, en Grande-Bretagne, un degré moindre d'ailleurs en France, qu'il y avait là un vrai danger, qu'il y avait là quelque chose qui pouvait les intéresser. Et ensuite, la machine s'est mise en marche.
D'accord. Il n'y a pas de complotisme là-dedans, il n'y a pas d'idée de complot. C'est, les politiques ont été convaincus.
C'est une collision d'intérêts. Je pense, comme l'expliquerait hein, Monsieur Prudhomme, c'est véritablement une collision d'intérêts, parce que les scientifiques ils sont souvent naïfs quand ils... pénètrent dans le champ de la politique, mais en même temps, ici, ils y trouvent aussi un intérêt rationnel qui est d'avoir accès à des crédits auxquels ils n'avaient pas rêvé avant que toute cette grande machine de l'idéologie du climat ne se mette en route. Donc, ils trouvent également leur intérêt, le politique qui trouve son intérêt, les scientifiques qui trouvent leur intérêt. Beaucoup de scientifiques, pardon de le dire, mais si je prends le cas belge, qui n'était pas très connu, pour ne pas dire de seconde zone auparavant, se sont lancés dans une carrière médiatique internationale et institutionnelle sur le plan international, auquel ils n'auraient jamais pu prétendre si cette grande idéologie ne s'était pas mise en route. Donc c'est une sorte de fertilisation mutuelle, comme on pourrait dire.
Alors j'ai un point de vue un petit peu en retrait par rapport à ça. Je pense effectivement ça existe. Mais je pense qu'il faut aussi tenir compte du fait que des intérêts convergents sur tel ou tel sujet, il y en a, mais sur différents sujets. Et je ne suis pas sûr qu'une communauté d'intérêts entre quelques scientifiques et quelques politiques aurait pu avoir un tel effet, une telle ampleur, aussi durable et aussi pas universelle, mais quand même pas loin. Et il y a aussi, derrière tout ça, derrière ce succès de cette très belle histoire, il y a précisément une très belle histoire. Il y a quelque chose qui est de l'air du temps, des représentations collectives d'aujourd'hui. Le climat, c'est l'agrégateur universel de notre vision un peu, je dirais, postmoderne, le terme est un petit peu galvaudé, mais au sens, nous sommes tout puissants et nous sommes indignes de notre puissance. Et ça, ça court dans les esprits depuis les années, depuis la guerre froide, je dirais, hein, ou peut-être depuis Hiroshima, disons.
Depuis l'atome, ouais.
Hein, une espèce d'auto-flagellation.
Et, nous sommes indignes, nous sommes des apprentis sorciers, nous sommes Icare, nous brûlons les ailes.
C'est l'hostilité à la technique. Hein.
Aussi, réaction à la technique. Et je pense qu'il y a ce mouvement de fond qui dépasse un peu tout le monde, et finalement, aussi bien les politiques que les scientifiques, que les industriels qui peuvent profiter de l'affaire, ou les militants de telle ou telle association, finalement, ils sont juste l'écume de quelque chose qui est plus profond.
Oui, mais ça remonte beaucoup plus loin que Hiroshima. Vous prenez la Bible, vous prenez beaucoup de textes sacrés, et vous avez l'homme qui a péché. Ses péchés vont entraîner des désordres absolument monstrueux qui vont le envoyer par Dieu, qui va les punir. C'est les premiers chapitres de la Genèse qui vous raconte ça. Et il y a donc un courant que l'on retrouve à mille occasions dans l'histoire de l'homme qui, par ses péchés, cause des désastres envoyés par Dieu et qui donc doit se punir lui-même pour remettre les choses dans l'ordre.
Alors du coup, je vais reprendre ma casquette d'historien deux secondes. Il n'y a pas un côté millénarisme là-dedans, un petit peu en retard, en fait, hein, c'est ça. Hein.
Mais cette fois, adossé sur la science. C'est-à-dire que Dieu a un peu cédé la place, et c'est plutôt le millénarisme scientifiquement c'est établi. C'est un petit peu la différence.
Benoît a raison. Donc, il y a une résonance avec des choses qui sont fondamentales, on peut dire, dans notre culture et dans la nature humaine. Il n'en reste pas moins que sur le plan pratique, l'intérêt domine. On a beaucoup parlé des politiques et des scientifiques. Il y a aussi les entreprises. Au début de cette affaire, on présentait les entreprises des énergies fossiles comme étant les seules détentrices d'un intérêt matériel dans ce dossier. Il y a aujourd'hui un énorme secteur économique qui est celui du renouvelable, qui s'effondrerait du jour au lendemain si on lui retirait la subvention publique. Et là, on ne parle plus d'un petit secteur local. On parle de quelque chose qui a pris une importance économique absolument considérable. Donc je pense que vraiment la coagulation de tout cela, ça reste aujourd'hui l'intérêt matériel, même si ce que dit Benoît est tout à fait correct.
Oui, moi j'ai des chiffres qui vont exactement à l'appui de ça. Les investissements dans le monde dans les renouvelables aujourd'hui sont plus importants que les investissements dans le monde dans toute l'industrie automobile. Donc on est bien là dans le big business. Et l'ampleur, j'ai même été surpris quand j'ai regardé ça, l'ampleur des intérêts économiques, industriels et financiers dans le secteur est devenue absolument considérable. Oui. Il y a aux États-Unis, Bloomberg, qui est une agence très importante, dirigée par l'ancien maire de New York, qui est spécialisée dans la production et dans la vente d'informations financières, qui s'adresse uniquement aux financiers et aux industriels. Et l'industrie des renouvelables est devenue tellement importante que Bloomberg a créé une succursale qui s'appelle Bloomberg New Energy Finance, parce qu'il y a un marché suffisamment considérable pour des gens dans des fonds qui veulent placer leur argent dans l'industrie des renouvelables. Alors ces gens, d'ailleurs, n'ont pas été à l'origine du mouvement. Ils ont pris ce train en marche, comme c'est un cadeau qu'on leur a fait. Alors ils ont assez vite compris quand même qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner là-dedans. Mais maintenant, ça rend mouvement presque irréversible, parce que ces gens constituent une puissance, ils ont du pouvoir, les politiciens sont bien obligés de les écouter, ils sont souvent financés par ces gens-là. Et donc, c'est depuis 5-6 ans, je dirais, cette importance-là est considérable. Et on nous le vend sous un angle extrêmement différent. On nous présente les renouvelables comme étant un paysan avec des sabots qui installe des panneaux sur son étable. Mais la véritable image, c'est celle du banquier avec son cigare.
C'est Tesla.
Si on regarde aux États-Unis, c'est Tesla.
Oui, Tesla, bien sûr. Ouais, voilà.
C'est vrai. On est assez loin, effectivement, du paysan en sabots. Hein, objectivement.
Mais il y en a aussi.
Il y en a aussi.
Il y en a aussi.
Oui, oui.
Mais
ils
sont
mais
pas.
Mais eux, ils sont renouvelables déjà avant.
Mais ils ne sont pas qu'en sabots.
Non, ils sont là. Comme... Ils ont toujours fait des renouvelables.
J'en connais. Non, ceci dit, j'en connais.
C'est pas la peine d'en parler.
C'est vrai. Mais c'est vrai que l'exemple de Tesla, c'est exactement ça. Il est l'émergence de ce courant.
Et puis tout ce secteur, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que si on lui ôte la subvention publique, il s'effondre.
Ah, parce qu'il est subventionné ?
Ah, bien sûr. Ah, sinon, ça ne poserait pas de difficulté s'il n'était pas subventionné.
Elon Musk, multimilliardaire.
Non, non. Ah, oui, mais ça n'empêche pas, il est multimilliardaire avec votre argent. C'est
pas,
c'est
pas
ça,
le mien personnellement.
Avec le nôtre. Ah, si, mais il reçoit également des subventions européennes, donc c'est également notre argent.
C'est quand même le nôtre.
Ah, oui.
Bah, zut alors.
Non, mais là, on parle de gens qui sont des Mozart de la finance. Ce sont des gens qui sont arrivés à un niveau de virtuosité tout en étant au départ de vrais entrepreneurs. Ils ont réussi, comme le disait M. Prud'homme, à prendre le train en marche et à capter un maximum de subventions tout en étant dans l'idée de servir la planète et le destin de l'humanité.
Génial.
Ah oui, oui c'est une martingale, je veux dire, on ne peut pas perdre dans ce cadre-là.
On va essayer de revenir un petit peu à la donne politique. Ce qui s'est passé donc, avec les États-Unis, donc l'élection de Trump, j'allais même dire Marine Le Pen en finale en France, est-ce qu'il n'y a pas en filigrane une différence de vision entre les uns et les autres sur l'indépendance énergétique ? Est-ce que ce n'est pas ça, en fait, que les gens voudraient ? Ils voudraient arriver à une autosuffisance. Et que c'est pour ça qu'on a eu Trump et que c'est pour ça qu'on a eu, entre autres, Marine Le Pen au final.
Je ne crois pas.
L'indépendance n'est pas un enjeu.
Non, je ne pense pas. En effet, dans tous les pays, l'énergie, en général, l'électricité en particulier, étant quelque chose de très important et de très stratégique, existe le souci de ne pas être trop dépendant des importations étrangères. En France, par exemple, le programme électronucléaire a été lancé en 1974 à la suite du premier choc pétrolier, très largement avec cette idée en tête de ne pas être à la merci d'un groupe de cheikhs arabes qui double ou triple les prix des produits pétroliers. Donc ce souci, évidemment, existe un peu partout. Mais il s'est beaucoup dissipé, il a beaucoup diminué, un peu parce que l'énergie, on en trouve à acheter un peu partout dans le monde. Personne n'est dépendant de un ou deux producteurs, ou relativement peu dépendant. Donc ce souci-là existe, bien entendu, et il n'est pas illégitime du tout, d'ailleurs, il est tout à fait raisonnable. Comme l'a été et comme est encore d'ailleurs dans certains pays, le souci d'avoir une indépendance alimentaire, de ne pas être trop dépendant des importations dans un pays comme la Chine ou comme l'Inde, c'est un souci tout à fait prégnant et tout à fait important. Mais je ne crois pas qu'il joue un rôle majeur. Et il n'en jouerait en particulier pas aux États-Unis, parce que les États-Unis sont maintenant très, très largement indépendants. Ils deviennent même exportateurs d'énergie grâce au gaz de schiste. Et je ne crois pas que ceci ait joué un rôle important. Mais
Gottfried,
vous pouvez me tromper.
Non, moi je suis tout à fait d'accord. Mais d'ailleurs, si c'était vraiment la préoccupation majeure, un pays comme la France ne ferait pas la transition énergétique, puisque son parc nucléaire lui permet justement cette indépendance. Et revenir sur ce parc nucléaire, ce qui est l'objectif, d'après ce que j'ai compris, enfin ça l'était de Mme Royal, ça l'est encore aujourd'hui de M. Hulot, c'est quelque part remettre en cause cette indépendance énergétique de la France. Je crois que dans le cas américain, ce sont vraiment des cas très différents. Je ne suis pas certain que très, très sincèrement, je ne suis pas certain que Mme Le Pen ait eu une compréhension très, très pointue de ces questions. Chez les Républicains américains, qui est une situation que je connais mieux, cette question de l'énergie est cruciale. Ils sont conscients de l'importance économique de l'énergie. Je crois qu'il y a une maturité économique dans le débat public qui est plus grande là-bas qu'elle ne l'est ici. Et par ailleurs, il y a une tradition démocratique qui me paraît à l'heure actuelle plus forte. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'élus républicains au Congrès qui ont pensé que cette histoire du GIEC, du climat et de l'environnement, qu'on leur vendait n'importe quoi. Et donc ils ont organisé, j'en avais parlé encore récemment, ils ont organisé au Parlement américain des auditions parlementaires au sens élémentaire en faisant venir de prétendus experts que l'on mettait en face de leurs contradictions. Et d'ailleurs, c'est assez frappant de voir que lors des dernières élections, le rejet de cet environnementalisme était un des seuls points d'accord initial entre Trump et la majorité républicaine. Donc je crois qu'il y a une part de tradition démocratique qui explique ce rejet américain et aussi l'intérêt bien compris des entreprises américaines aujourd'hui qui est clairement pas de tourner le dos à l'énergie fossile à l'époque où il y a justement cette révolution du gaz de schiste.
Oui, il a récemment ordonné un réexamen de ce qu'avait fait Obama.
Il est déjà revenu sur toute une série de mesures. Mm-hmm. Il a nommé à la tête de l'Agence de l'environnement, dont il a d'ailleurs resserré les compétences, quelqu'un, un certain Scott Pruitt, qui est ce qu'on appelle ici en Europe un climato-sceptique. Il a déjà fait beaucoup de choses. C'est un des chapitres sur lesquels il a vraiment été rapide dans l'implémentation, de son programme. Par contre, il y a encore un verrou, et c'est l'accord de Paris. C'est de savoir si, comme il s'y était engagé pendant sa campagne, va-t-il, oui ou non, retirer les Américains de l'accord de Paris. Ça reste encore vraiment la grande question. Je l'ignore. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que Benoît en pense. Mais
l'accord de Paris, on peut rappeler ce que c'est éventuellement. Oui, donc, oui. C'est ce qui a été carrément signé en décembre 2015, lors de la fameuse COP21, où Paris est devenu le centre du monde et se préparait à sauver la planète sous l'égide de nos bien-aimés ministres.
Ce n'est pas médisant.
Donc, l'accord de Paris, c'est un bout de papier qui a rendu tout le monde content parce que on arrivait à signer quelque chose, hein, et que effectivement quelques mois avant on n'était pas sûr que on arriverait à faire un grand barnum qui mettrait tout le monde d'accord ou tout le monde s'embrasserait à la fin. C'était un petit peu l'objectif et ça a fonctionné, c'est-à-dire qu'effectivement du point de vue de l'affichage il y a eu un accord qui a mis d'accord tout le monde où on s'est engagé à faire des promesses qui un jour nous mettrait sur la bonne voie. En réalité, quand on regarde les détails, il y a pas grand-chose. Hein. Il y a même rien de contraignant. Il y a pas de. On sait très bien que c'est pas beaucoup plus qu'un bout de papier. Donc, une des questions qui peut se poser pour l'administration américaine aujourd'hui, c'est effectivement, bon, il y a un côté un peu contraignant parce qu'on a quand même signé. Il y a quand même une sorte d'engagement. Bon, on peut toujours revenir sur sa parole, mais c'est un petit peu compliqué quand même. Et si on se retire de l'accord de Paris, c'est difficile d'un point de vue juridique de le faire directement. Alors, il y a une autre façon de faire qui consiste, c'est plutôt l'arme nucléaire, qui consiste à se retirer carrément de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, c'est le machin onusien, si je puis dire, qui chapeaute toutes les négociations internationales sur le climat. Donc ça, c'est plus facile de s'en retirer. Et de fait, ça retirerait les Américains de l'accord de Paris. Est-ce que c'est une si bonne... Est-ce que c'est si important? C'est pas évident. Parce que, étant donné que l'accord de Paris est quand même assez vide, il y a au sein de l'administration américaine, y compris Rex Tillerson, donc qui est le numéro 2, en quelque sorte, qui a l'oreille de Donald Trump, il se dit que c'est peut-être pas une si bonne idée de se retirer, parce qu'on peut très bien rester, regarder ce qui se passe, et se contenter de ne rien faire, comme on l'a fait déjà, après tout, à Kyoto. En 97, l'accord de Kyoto devait déjà sauver la planète, et on peut regarder les émissions de gaz à effet de serre avant et après Kyoto, c'est une courbe ascendante.
Sauf
les Américains, mais
qui n'étaient
pas dans l'accord de Kyoto. Donc, il y a cette question-là est-ce que les Américains se retireront ou pas ? Elle a une dimension symbolique certaine. Et si on est climato-réaliste, évidemment, ça nous déplairait pas qu'ils se retirent de l'accord de Paris, parce que ce serait un coup symbolique qui serait effectivement important. Est-ce que ça aurait un tel impact sur les politiques publiques internationales ou la diplomatie climatique internationale ? C'est pas si évident.
Oui, hein, je...
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Benoît. L'accord de Paris, c'est un non. C'est un non-accord, et s'en retirer ou non, c'est un non-problème. C'est un non-accord, parce que, comme l'a bien dit Benoît, il n'y a rigoureusement rien. Dans l'accord de Paris, les gouvernements sont arrivés en disant « Voilà ce que nous avons envie de faire en matière de rejet de CO2. » Ils ne mettaient sur la table que des choses qu'ils avaient déjà plus ou moins décidé de faire et qui étaient déjà et qui n'étaient pas du tout très très contraignantes. Et donc le premier objectif, c'était d'arriver à un accord contraignant, et il n'y a rigoureusement aucune contrainte d'aucune sorte. Vous pouvez ignorer totalement ce que vous avez dit que vous alliez essayer de faire si tout allait bien, si vous le pouviez, si ça ne mettait pas en cause l'économie, si les autres le faisaient, c'est-à-dire rien du tout. Il y avait une deuxième question qui était de savoir, qui était la plus importante pour beaucoup de pays, notamment des pays pauvres. On reprenait les décisions n'est peut-être pas le meilleur mot, faudrait en inventer un autre, des affirmations qui avaient été formulées 10 ans plus tôt à Copenhague, dans lesquelles les pays riches devaient donner 100 milliards par an aux pays pauvres au nom de la transition énergétique. Et sur ce point, on n'a pas avancé d'un iota. Personne n'a la moindre idée de savoir comment ces 100 milliards par an seraient partagés entre les pays riches. Personne ne peut vous dire aujourd'hui combien la France devrait payer. Est-ce que c'est 6 milliards, 2 milliards, 15 milliards ? Personne n'en a la moindre idée. Et il n'y a pas non plus d'accord sur la façon dont ce gâteau serait partagé entre l'Inde et l'Éthiopie. Est-ce que c'est... en aucune façon. Donc on n'a rien décidé du tout là-dessus. C'est-à-dire qu'on a un accord...
Laissez parler notre ami.
Totalement.
Vous avez
vide.
Du mal.
Alors, se retirer d'un accord vide... Bon, c'est, ça n'a rigoureusement aucun intérêt et aucun sens.
Je suis presque tout à fait d'accord avec ce que les deux autres intervenants viennent de dire. C'est que, d'abord, il ne faut pas mésestimer le fait que lorsque des Anglo-Saxons souscrivent à une convention, ils la prennent beaucoup plus au sérieux, je dirais, que les pays latins ou les pays francophones d'Europe. Et par exemple, dans l'accord de Paris, les pays s'engagent. Certes, ce n'est pas une obligation, mais au niveau international, c'est rare qu'on ait affaire à des obligations aussi clear-cut, aussi nettes, je dirais, qu'en droit privé ou en droit interne. Les pays, entre guillemets, riches, parce que dans les pays non riches, il y a des pays qui sont quasiment aussi riches, voire beaucoup plus riches que les pays riches, mais peu importe, s'engagent à limiter, déjà maintenant, les émissions de gaz à effet de serre. Et donc cela... Si c'est pris au sérieux, bien que ce ne soit pas une obligation au sens juridique, cela aura forcément une influence économique. Et par ailleurs, et principalement, il ne faut pas omettre l'aspect suivant. Dans le domaine international, on n'a pas affaire à des lois qui sont comparables à celles que nous avons sur le plan national. Et donc, il y a plus une sorte de continent qui s'avance pièce par pièce. Il y a un effet cumulatif. Par exemple, pour essayer d'être concret, l'accord de Paris, il y a toute une série maintenant de petites déclarations, d'accords locaux, sectoriels, etc., qui se revendiquent de l'accord de Paris. Donc on crée une norme qui n'est pas obligatoire au sens strict, mais par cet effet cumulatif et de création, je dirais, d'un environnement juridique, elle a en réalité un rôle qui est finalement très important. Et donc, le Green Fund dont parlait à l'instant M. Prudhomme, effectivement, à l'heure actuelle, il n'existe pas. Mais le mécanisme existe, il a été réitéré dans l'accord de Paris, et il porte potentiellement sur des montants qui sont effectivement considérables. Et donc, je suis d'accord avec Benoît, c'est probablement pas la chose principale de savoir s'il va ou non se retirer de l'accord de Paris. Mais je crois pas qu'on puisse dire simplement que c'est purement symbolique, parce que sinon, il n'y aurait pas tout ce débat. À l'heure actuelle, il y a... Je connais des gens qui étaient dans l'équipe de transition entre Obama et Trump. Je ne connais pas les gens qui maintenant s'occupent de ces dossiers, mais dans l'équipe de transition. Et eux me disent qu'il y a effectivement deux camps tranchés. D'un côté, Tillerson et Ivanka Trump, puisque la fille du président américain, visiblement, s'intéresse beaucoup à ces questions, qui, eux, sont pour le maintien dans l'accord de Paris. Et de l'autre, tous les gens qui étaient proches de l'équipe de transition, ou bien des gens comme Stephen Bannon, et qui, eux, sont partisans, parce qu'ils sont conscients, je crois, de l'importance symbolique et plus que symbolique de cet accord de Paris, sont partisans de se retirer soit simplement de l'accord de Paris, soit carrément, effectivement, de la Convention cadre des Nations Unies, dont Benoît rappelait très justement quel est finalement l'élément fondamental de toute cette construction.
Alors, pardon pour la question idiote que je vais poser, mais en quoi ça concerne un Français, en fait, si les États-Unis quittent la COP21, s'ils se remettent à lancer le charbon, etc., etc. Nous, ça ne nous concerne pas des masses, ou est-ce que c'est important ?
Ça dépend un peu de si on considère que l'accord de Paris a une importance réelle.
Je parle pour Mme Michu au quotidien. Je parle pour le changement climatique. Je parle pour tout ça.
Ça dépend un peu de la naïveté avec laquelle, pas forcément la France, mais surtout l'Union européenne, qui est beaucoup engagée sur ce dossier, va essayer de se tirer une balle dans le pied. Parce qu'on peut imaginer que même si les États-Unis se retirent. Si les États-Unis se retirent, la Chine ne sera pas contente parce qu'ils s'étaient mis d'accord quand même avant pour ratifier ensemble. Et ils ont ratifié le même jour, chacun regardant le stylo de l'autre pour vérifier que les deux ratifiaient. Et là, si un des deux se retire, on peut aussi poser la question de savoir ce que ferait l'autre. D'autres pays seraient tentés, de regarder l'accord avec moins d'intérêt. En revanche, l'Union européenne est probablement la plus en pointe sur ce dossier. Et on peut penser que, même si tout le monde se retire, l'Union européenne peut fort bien décider de sauver la planète toute seule en réduisant ses gaz à effet de serre et en retardant de 15 jours probablement le réchauffement climatique.
Ça veut dire des impôts en plus.
Ça veut dire le coût de l'énergie chez nous qui va continuer à augmenter, alors que les Américains, donc il ne faut pas être un grand clair pour se rendre compte qu'effectivement, comme tu le disais, on se tire une balle.
Voilà. Donc en fait, concrètement, c'est ça qui risque de se passer.
C'est déjà ça qui se passe maintenant.
Oui, on voit surtout en Allemagne, effectivement.
En Allemagne, oui.
Quelles qu'en soient les raisons, effectivement, les transitions énergétiques allemandes, bon, ça, c'est peut-être Rémi qui peut en parler, mais le renchérissement de l'énergie, on le voit à l'œuvre. On commence vraiment à avoir assez de recul pour mesurer les effets de ces politiques-là de façon très concrète pour Mme Michu quand elle paye sa facture d'électricité.
Là, c'est fondamental parce que ça.
Et deux fois plus cher en Allemagne qu'en France et. Trois ou quatre fois plus cher qu'aux États-Unis pour les ménages, le kilowattheure payé.
Donc vous êtes en train de me dire que si on suit ce que voudrait Nicolas Hulot, en gros, ça suivrait l'Allemagne, c'est ce qui va nous arriver.
Oui, même un peu plus, ça ferait un peu plus que doubler la.
C'est intéressant.
Que doubler le prix payé par les ménages et les entreprises.
Dans un contexte différent du contexte allemand, parce que la France est très forte sur le plan nucléaire, ce que les Allemands n'étaient pas. Donc ici, dans le cas français, c'est d'autant plus irrationnel de se lancer là-dedans, puisque le nucléaire n'émet pas de CO2. Donc en termes de réduction des gaz à effet de serre, le bilan sera forcément nul. C'est quelque chose d'assez étourdissant.
Le caractère assez irrationnel et je dirais presque pseudo-scientifique, c'est-à-dire qu'on prétend s'adosser sur la science, alors qu'en réalité, on s'adosse sur la peur.
C'est de la propagande.
Donc, effectivement, la peur du progrès est une peur diffuse et indistincte. Le climat sert d'agrégateur, mais en réalité, effectivement, ce qui serait rationnel pour quelqu'un qui aurait objectivement peur du climat pour des raisons que, après tout, peuvent se discuter, ce serait de dire, eh bien, arrêtons d'émettre le gaz carbonique très vite. Et quelle est la manière la plus simple, la plus rapide de le faire et dans laquelle on a une expertise, on est sûr du coup, c'est de développer massivement l'énergie nucléaire. Et en réalité, on nous dit exactement le contraire.
On va rappeler les livres, effectivement, tout à l'heure. Je vais rappeler aussi le programme d'Emmanuel Macron. C'est la baisse de la part du nucléaire à 50% du mix électrique en 2025, la fermeture des dernières centrales à charbon françaises d'ici à 2022, le doublement des capacités éoliennes et solaires d'ici à 2022. Ça paraît réaliste ?
Non.
Voilà. Parlez bien près du micro. Oui.
ça ne l'est pas. D'abord, il y a une différence entre ce que Emmanuel Macron a mentionné, qui n'est rien d'autre que la loi de transition énergétique qui a été votée en France, et ce que Nicolas Hulot a dit hier.
Qu'est-ce que vous allez nous rappeler ? Parce que là, aujourd'hui, on est le 19 mai, mais absolument. Pour ceux qui regarderont après.
Donc, ce qui était prévu, c'était de passer de 75% de l'électricité nucléaire à 50% de l'électricité qui serait nucléaire, ce qui veut dire diminuer d'un tiers quantité d'électricité nucléaire que nous avons. Et hier, Nicolas Hulot a expliqué qu'il allait diminuer de 50% la quantité d'électricité nucléaire. Alors, je pense que ça veut dire qu'il ne fait pas bien la distinction entre 50% entre moins 50% et diminuer la part à 50%. Je pense que ça, c'est le degré d'ignorance du ministre qui est maintenant responsable de cette affaire-là. Mais de toute façon, ce n'est pas lui qui prendra les décisions. Alors, la raison pour laquelle cette affaire n'est pas très raisonnable est la suivante. En France, la demande d'électricité n'augmente pas du tout. Depuis 10 ans, elle n'a pas augmenté. La consommation de la France n'augmente
pas. En moyenne, c'est-à-dire qu'en hiver, peut-être plus, et en été...
Ça varie de 1 ou 2 ou 3% d'une année sur l'autre. Mais nous avons une consommation d'électricité qui stagne. Constance. C'est le cas d'ailleurs d'à peu près toute l'Europe. Encore, il y a des pays dans lesquels, comme le Royaume-Uni, où elle tend à décliner. Ce qui est d'ailleurs très bien, d'ailleurs. C'est très bien si on arrive à faire la même chose et à produire...
Oui, parce que les appareils sont moins gourmands, parce que...
Parce qu'on économise, parce que essentiellement l'industrie décline dans nos pays. C'est la raison, oui, ça, hélas, c'est la raison majeure, parce qu'il y a des chômeurs industriels. Mais bon...
Si je me permets de vous couper, malgré tout aussi, toute cette histoire de changement climatique a aussi amené que des appareils soient moins gourmands justement en énergie, qu'il y ait de meilleurs radiateurs, etc. Peut-être que ça a permis de jouer aussi.
Ça existait. Tous les gens qui payent, tous les industriels qui payent l'électricité, ils ont un intérêt direct à en consommer le moins possible. Hein.
C'est une logique économique, effectivement. Ça a toujours été le cas. Donc, à partir du moment où on produit plus avec moins, c'est une logique économique. Par ailleurs, il ne faut pas tout mélanger. C'est sûr que la lutte contre la pollution est étrangère à la question du climat. Le fait de réduire les émissions de particules fines n'a strictement rien à voir avec la question du
c'est
climat.
C'est souvent amalgamé.
Donc, on a progresser effectivement dans ce secteur, et ça, tout le monde s'en réjouit, ça, personne ne pourra soutenir le contraire rationnellement. Là, c'est la science qui parle, effectivement.
Bien sûr, pardon.
Oui, donc je disais que plus on réduire l'électricité d'origine thermique en France, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il n'y en a pratiquement pas. Il y a un petit peu, à certains moments, dont on a d'ailleurs besoin quand on a de l'électricité renouvelable, parce que, comme vous avez pu remarquer, il y a des moments où, alors qu'à l'heure actuelle, là, il n'y a pas de soleil, donc il y a la production d'électricité solaire, alors qu'elle est égale à zéro, et il y a des moments où il n'y a pas de vent, et la production d'électricité éolienne, elle est égale à... Elle n'est pas très, très élevée. Donc il faut avoir, quand on a de l'électricité renouvelable, il faut avoir des moyens de produire de l'électricité d'une minute à l'autre. Et on ne peut guère le faire qu'avec des centrales au gaz ou au charbon. Alors on en a un petit peu, ça nous suffit pour le moment. Mais c'est au contraire, si on avait beaucoup plus de renouvelables, on serait obligé d'avoir davantage de centrales au charbon ou au gaz.
Donc lui, il veut les fermer.
C'est en Allemagne. C'est exactement ce qui se passe en Allemagne.
Donc en 2022, si on suit Emmanuel Macron, on n'a plus de centrales charbon.
Oui, mais ça, on aura des centrales au gaz. Le central au gaz, ça rejette juste moitié moins que les centrales au charbon. Donc c'est bien préférable. Ça, c'est vraiment un détail. Sauf que si on diminue d'un tiers la production de nucléaire, il faut le remplacer par une production de renouvelables. On ne peut pas faire autrement. Et il ne faut pas augmenter d'un tiers. Là, il faut multiplier par 5 ou 6 dans la version de la transition énergétique. Et dans la nouvelle version de M. Hulot, je n'ai pas encore calculé, mais il ne faudra pas multiplier par 6, il faudra probablement multiplier par 9 ou quelque chose comme ça. Et compte tenu du coût, c'est quelque chose qui ne se fera pas. On peut en être absolument certain. Quand on voit la difficulté qu'on a eue en 5 ans pour ne même pas arriver à fermer 2 centrales, l'idée qu'on va dans les 5 ou 6 années à venir enfermer 18 ou quelque chose comme ça n'est pas une idée très réaliste.
Mais je comprends.
Il faut se rendre compte quand même d'un élément, c'est que dans le monde économique, les décisions sont beaucoup moins grandiloquentes qu'elles ne le sont dans le monde politique. Et donc ce à quoi on assiste aujourd'hui, il y a un secteur dans lequel l'économie européenne sur le plan industriel reste fort, c'est la chimie. Alors les entreprises, elles ne font pas que le même politique. Elles n'annoncent pas publiquement des chiffres faramineux à la Hulot, en plus en se trompant de façon grossière dans les chiffres qu'ils avancent. Que font-elles? Elles prennent des décisions qui concernent l'avenir. Donc elles prennent des décisions d'investissement. Quand
Quand beaucoup d'entreprises actives dans le domaine de la chimie en Europe et aux États-Unis ont aujourd'hui la possibilité d'investir soit sur le continent européen, soit aux États-Unis, étant donné le différentiel de coût de l'énergie, elles prennent d'ores et déjà, on n'en parle jamais, mais ça, ce sont de vraies réalités, de vraies décisions qui sont suivies des faits. Elles décident déjà d'investir plutôt sur le continent américain que sur le continent européen. C'est le seul secteur de la chimie, s'il devait poursuivre ce mouvement et s'effondrer à la fin en Europe, aurait une influence cataclysmique sur l'économie européenne. On ne peut pas se le permettre, puisque derrière, tout cela est finalement financé par l'argent des impôts, donc sur une richesse qui, quelque part, doit être créée. On ne peut pas se permettre de tuer l'économie européenne à cet effet. Ça n'a pas de sens.
Et d'ailleurs, Engie a chuté en bourse très rapidement. Dès que...
Ce sont... Ce...
Oui. Oui, au moment Engie, de la désignation de Nicolas Hulot, EDF a lourdement chuté.
Henri Lepage qualifie ces entreprises, de l'économiste français Henri Lepage, de morts vivants. Ce sont des entreprises qui étaient très profitables. Les électriciens européens étaient très profitables il y a encore une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, elles ont remplacé de l'argent privé par de la subvention publique. Et on les oblige à prendre des décisions. Ici, vous avez ces quatre fusions. La fusion acquisition dans le monde du capitalisme est quelque chose de normal et qui n'est pas sain ou malsain, c'est juste quelque chose qui est normal. Ici, vous avez des décisions qui sont maintenant en partie orientées par l'intérêt et en partie orientées par cette question de la subvention publique, de ce qui sera demain permis ou pas permis. Donc, ce n'est plus naturel sur le plan économique. On a de grands géants économiques, les électriciens, qui aujourd'hui en Europe sont au pied d'argile.
Ah ben, ils perdent tous de l'argent. Ah bon, ils perdent tous de l'argent. Alors qu'est-ce qu'ils font pour sauver leur peau? Ils se réfugient dans les renouvelables, où ils en gagnent parce que c'est subventionné. Ils se réfugient dans le transport de l'électricité, parce que c'est totalement public, il n'y a pas la moindre concurrence, et que les prix sont fixés d'une façon qui permet de gagner de l'argent. Où ils vont au Brésil ou au Zimbabwe, parce qu'il n'y a pas de réglementation européenne et qu'il y a peut-être encore la possibilité de gagner un peu d'argent. La France étant, EDF étant encore ce qui, probablement, l'entreprise qui s'en sort le moins mal, grâce au nucléaire.
L'avenir n'est pas très rose, si on imagine, si ça se passe comme ça.
Et c'est d'ailleurs dommage que quelqu'un comme Macron, qui veut innover, qui est une sorte d'ovni dans le ciel politique européen, soit sur le sujet du climat, finalement, tellement servile, je dirais, par rapport à l'idéologie dominante. Moi, ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce que Hulot, on ne peut pas faire pire. Je veux dire, comme représentant de cette idéologie, c'était difficile de faire un cas plus exemplaire que Nicolas Hulot, surtout si effectivement, comme le disait M. Prudhomme, il s'est trompé sur le chiffre qu'il a avancé.
Et... Oh, il sera ni le premier ni le dernier.
Préparation du.
Il y aura eu des gens de chez Macron pour lui expliquer que tout de même, réduire d'un tiers, c'est déjà beaucoup, mais réduire de moitié, là, c'est franchement hors des limites.
Il y a quand même plusieurs choses avec la désignation du nouveau gouvernement français. C'est qu'effectivement, Nicolas Hulot au ministère de l'écologie, c'est pas ce qu'on pourrait rêver de mieux quand on est climato-réaliste. Mais d'un autre côté, il faut comprendre que ce ministère-là, de toute façon, est complètement acquis à la cause. Et même les ministres précédents ont été tout à fait serviles aussi avec le climatisme ambiant, et quelqu'un comme Ségolène Royal, par exemple, a vite compris, je ne sais pas si elle avait spécialement de conviction sur la question, mais elle a vite compris que pour être ministre de l'Environnement, il fallait de toute façon endosser ce costume-là. Donc en soi, ça n'est pas forcément dramatique. J'aurais été plus préoccupé de voir au ministère de la Recherche quelqu'un comme Jean Jouzel, ou au ministère de l'Éducation nationale, quelqu'un comme Corinne Lepage, ou des gens qui sont très engagés sur cette question-là et qui aurait conquis d'autres ministères. Parce que celui-là, de toute façon, il faut quand même reconnaître que tout ce qu'on peut... La seule bonne nouvelle qu'on aurait pu avoir, c'est de... Et je ne sais pas si... Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris si c'était déjà décidé, c'est de voir son périmètre rétréci. Quel est son... Alors, mais je crois qu'il est resté à peu près constant. Et bon, c'est un peu neutre, disons. L'opération, pour moi, elle me semble à peu près neutre, en réalité. Même si, il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur Nicolas Hulot.
Il y a un point sur lequel il faut insister, c'est que le coût de ces plaisanteries-là est particulièrement régressif. Il se trouve que la consommation d'électricité augmente beaucoup moins vite que le revenu. C'est-à-dire que les riches dépensent une petite part de leur revenu en achetant de l'électricité, et les pauvres une part beaucoup plus grande. C'est-à-dire que une hausse du prix de l'électricité pèse beaucoup plus sur le budget des pauvres que sur le budget des riches. La définition même d'un impôt régressif. Et c'est d'ailleurs assez surprenant.
Injuste,
oui. En tout cas.
Mais du point de vue de leur propre valeur.
C'est ça. C'est d'ailleurs un paradoxe étrange que les candidats de gauche à l'élection étaient tous pour ce système régressif et que les seuls, à commencer par Mélenchon, par Hamon,
très en pointe,
Que c'était les candidats de droite qui étaient opposés à cet impôt régressif. Je pense que c'est largement du fait qu'ils ne comprennent pas et que ils ne sont pas capables de faire cette analyse pourtant
c'est ça très le plus
simple,
grave en fait. C'est
très simple et très élémentaire. Mais politiquement, il y a des pays, dans les pays dans lesquels il y a beaucoup de renouvelables, comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme même le Royaume-Uni, il y a maintenant une précarité énergétique, c'est-à-dire qu'il y a des pauvres qui ne peuvent pas se chauffer, qui tombent malades. Enfin, c'est un vrai problème politique très, très grave en Allemagne ou au Royaume-Uni. Et donc, ça, les mêmes causes produiraient les mêmes effets en France et ça amènerait évidemment des politiciens, surtout s'ils ont un passé de gauche, à réfléchir deux fois.
Mais je ne comprends pas, en Allemagne, ils sont réélus constamment.
Non, justement. Il y a une évolution très intéressante en Allemagne, dont on ne sait pas si elle va continuer, mais au cours des élections récentes, là, il y a eu trois élections régionales, et dans les trois élections régionales, les Verts ont été laminés, au point qu'on se demande si, aux prochaines élections nationales en Allemagne, les Verts auront bien les 5% qui leur permettront de rentrer au gouvernement. Alors, c'est au mois de septembre, je crois. D'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. Mais, et la raison en est très largement la hausse des prix de l'électricité. Et il y a des tas de gens pauvres qui commencent à faire le lien entre les décisions qui ont été prises pour faire plaisir aux Verts, plus que pour autre chose, leur vote.
En Grande-Bretagne, c'est pareil ?
Je pense que le cas allemand est intéressant parce que le phénomène d'injustice dont on vient de parler est d'autant plus fort que ceux qui supportent le surcoût de l'énergie, ce ne sont que les particuliers et les entreprises en sont exemptes. Donc c'est encore plus injuste. Mais en revanche, en Allemagne, ce qui a permis cette énormité, c'est que justement cette idéologie transcende très largement les partis. J'assistais il y a quelques mois à une conférence d'un homme politique qui au départ vient de la gauche, c'est-à-dire du SPD, qui s'appelle Fritz Fernholz, qui était venu faire une conférence sur le sujet à la Chambre des communes au Royaume-Uni. Et il expliquait justement une très bonne conférence, une vraie synthèse de la question. Il montrait bien aussi que cette politique n'a pas du tout abouti à une diminution des gaz à effet de serre. Donc c'est quelque chose, encore une fois, qui est quand même assez saisissant. Et ce qu'il expliquait de fondamental, c'est que cette conviction climatiste, disons environnementaliste, transcende largement tous les partis. Et donc elle a été reprise à son compte, aussi bien par la droite que par la gauche. Et donc son pronostic n'était pas tranché. Il n'avait pas l'air de dire que si les Verts se font effectivement éradiquer des différents parlements, des Länder, du Parlement fédéral, pour autant l'Allemagne sortirait de cette énergie. Il faut se rendre compte, juste pour terminer, que ce qui permet ça en Allemagne, c'est une extrême santé économique. L'Allemagne a des budgets, des surplus budgétaires depuis des années, ce qui, dans des pays comme la France ou la Belgique, est totalement impensable. Ça lui permet effectivement de subventionner cette aberration. Je crois que c'est vraiment l'idéologie qui porte la chose le plus loin en Allemagne. C'est vraiment le facteur qui domine en Allemagne, c'est l'idéologie, me semble-t-il.
On ne risque pas d'avoir des coupures de courant dans les années qui viennent.
Ils ont failli en avoir une en Allemagne au mois de janvier. Passé à un fil.
Et ça, c'est le Moyen-Âge. Les gens doivent bien se rendre compte que la conséquence de ces politiques, ce sont effectivement des coupures de courant. Et là, c'est le retour instantané au Moyen-Âge. Tout s'arrête. Quand il y a une coupure de courant dans des villes comme les nôtres, toute activité s'arrête.
C'est produit en Australie, donc un des quatre États, enfin un des quatre, je ne sais plus lequel, eux ont effectivement sont ceux qui sont le plus engagés localement dans cette politique-là verte, sont ceux qui ont connu il y a pas très longtemps des coupures assez massives d'électricité pour des raisons d'intermittence, toutes les difficultés technologiques que ça pose d'intégrer ces énergies-là au réseau. Et alors, Drieu parlait de l'Allemagne. En fait, la France est un petit peu pareille à cet égard aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut s'étonner de voir quelqu'un comme Emmanuel Macron, finalement, ne pas être très différent des autres, alors qu'on imaginerait que son passé dans le privé, dans les cercles économiques, l'aurait rendu un peu prudent sur ces questions. La France et l'Allemagne, c'est un peu bonnet blanc et blonde bonnet sur ces questions. C'est-à-dire que personne n'a endossé explicitement de position critique sur la question. Ça a été une très grosse surprise de voir Nicolas Sarkozy, au moment de la primaire de la droite, dire clairement qu'il était climato-sceptique. C'est le seul en France à l'avoir fait. À une échelle. Même des partis très périphériques n'ont jamais franchi le pas.
Je ne suis pas sûr que ça lui ait réussi.
C'est probablement pas ça qui a fait qu'il n'a pas eu. C'est un cas qui mérite d'être noté. Parce que c'est vraiment la première fois qu'un personnage de premier plan, de stature gouvernementale, disons, a dit quelque chose comme ça. À l'extrême gauche, par contre, donc effectivement, on a plutôt des gens comme Mélenchon qui ont enfourché le cheval de bataille. Alors qu'effectivement, comme disait Rémi Prud'homme, ça ne devrait pas du tout être de. C'est tout à fait contre nature. Et même à l'extrême droite, où là, on peut avoir du côté du Front National, où on aurait pu, là, pour le coup, assez bien imaginer quelque chose de voisin de ce que peut faire Donald Trump. Même là, finalement, c'est silence radio. Donc, il y a effectivement une forme d'ambiguïté, mais essentiellement, je ne suis pas sûr que ils soient très concernés. Leur point de vue sur ce qui est environnemental est en fait très dépendant de leur point de vue sur la souveraineté. Et donc, ils n'ont pas vraiment d'opinion sur le sujet proprement dit. Ils ont leurs lunettes de souverainiste ou de
Front National. Tout à l'heure.
Voilà. Donc ça, effectivement, pour eux, ça peut être un élément d'appréciation, mais on voit relativement peu de prise de position. Donc c'est une vraie grosse différence avec les États-Unis où là, le partage est très net entre les républicains et les démocrates. Vous avez, il y a possibilité d'une discussion sur cette question qui a pas du tout en France, en Allemagne ou en Europe en général. Peut-être un peu au Royaume-Uni quand même parce qu'il y a eu quelques grandes figures qui ont pris parti. Et encore, c'est pas très facile.
Alors on va vers quoi? Ça veut dire qu'on va vers la France va devenir comme Paris, il va y avoir des ayatollahs verts ou est-ce que...
C'est quand même en perte de vitesse aussi en France. Il faut voir les scores des écologistes diminuent régulièrement. C'est-à-dire qu'ils ont eu une belle période il y a quelques années et puis on a l'impression que c'est quand même en train de passer par pertes et profits.
3%, mais ils sont divisés en 3 ou 4.
Oui, mais 3% ensemble. 3% ensemble, ils sont divisés en 3 ou 4.
Alors du coup, qu'est-ce que vous avez contre Nicolas Hulot? J'allais dire Nicolas Sarkozy, mais contre Nicolas Hulot. Parce que c'est vrai que vous avez plutôt...
Alors, rien contre la personne.
Non, mais je sais bien que ce n'est pas la personne.
Nicolas Hulot est très sympathique, mais
vouloir diminuer de moitié d'ici 2025 la production d'électricité nucléaire, c'est une absurdité incroyable, enfin, qui dépasse l'entendement.
C'est un crime contre l'Académie française. Je crois qu'il faut oser dire la chose. C'est un crime contre l'Académie française,
pour moi. C'est totalement impossible. Donc, oui. Ça témoigne d'une ignorance absolue des réalités dont il parle et dont il prétend être socialiste. Mais c'est pas le seul. J'étais très frappé de voir un rapport Madame Lepage, qui a failli être ministre de l'Environnement, dans un rapport écrit il y a un an ou deux, et un rapport d'une commission, donc, lu et relu par 30 personnes, avec tout l'appareil d'État derrière, elle écrit « La production d'électricité solaire dans le monde fait 10% de la production totale d'électricité dans le monde. 10%. Le chiffre correct et 0,8%.
Ah oui.
Alors quand on fait des erreurs de ce calibre-là, il y a quand même beaucoup de milieux dans l'université, par exemple, ou dans le privé. Un individu qui se tromperait d'une façon aussi grossière, sans parler de nos étudiants d'ailleurs, il passerait quand même un très mauvais moment. Mais en France, un politicien peut parfaitement dire des absurdités aussi énormes et être considéré comme un spécialiste, comme un connaisseur.
Oui, bien sûr.
Alors ça, ça donne une mesure de...
Ah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, entre guillemets. Là, les médias ne savent pas de quoi ils parlent la plupart du temps sur ce
absolument.
Sujet-là.
Les médias, et, la plupart des médias confondent plus, la puissance qui se mesure en watts et la production qui se mesure en watts-heure. Ils ne font pas la distinction. Ils confondent tout le temps.
Mais je suis pas journaliste.
Mon petit-fils en troisième savait ça. On l'enseigne dans toutes les classes de troisième.
Ouais, je ne sais pas la différence, mais puisque vous êtes là.
On n'est pas obligé de savoir la différence en tant que citoyen. On n'est pas obligé d'être dans tout. Mais quand on a des prétentions, quand on est journaliste environnemental, qu'on écrit des articles sur l'énergie ou quand on a des responsabilités dans ce domaine, non, mais bien sûr, on n'est pas obligé. Mais c'est vrai que ce dit Rémi, c'est une distinction, c'est une des premières choses qu'on apprend quand on s'intéresse à l'énergie, c'est comment on mesure l'énergie, comment on mesure la puissance, et c'est, oui, une production, c'est pas la même chose qu'une capacité, c'est la première ligne du manuel de base. D'accord. Donc, alors, il faut voir aussi que, bon, effectivement, il y a une différence quand même, enfin, l'impact politique d'une décision comme celle de mettre Nicolas Hulot ministre, il y a une charge symbolique assez forte, effectivement, c'est pas la première fois qu'on met un ministre qui n'a pas de compétences particulières dans le domaine, mais simplement qu'on met là parce que c'est une figure qui représente quelque chose pour le grand public. Et ce qu'il va falloir voir, et ça c'est difficile de le prévoir, mais on peut quand même imaginer, vu sa personnalité et vu ceux qui sont derrière lui, qu'il n'aura pas du tout les coudées franches et qu'il va falloir qu'il avale un certain nombre de couleuvres, ou alors...
Lui connaît la différence entre un watt et un watt.
La difficulté sera sans doute je pense que c'est une difficulté politique qui est récurrente, qui n'est pas provoquée, c'est on veut faire des belles choses, on annonce des grandes choses, et il y a la réalité derrière, et une partie du travail du bon politique, c'est comment on la présente pour qu'elle se vende à l'opinion et comment concilier le discours avec le réel.
Tout à fait. D'autant que je veux rappeler que M. Hulot avait failli être candidat à plusieurs reprises, oui. Et chaque fois au dernier moment, il s'était retiré. Donc je ne suis pas certain qu'il ait une personnalité qui le prépare véritablement au monde politique, c'est-à-dire la contradiction permanente, le fait de devoir gérer des attaques médiatiques permanentes, tout ça, il ne l'a pas connu jusqu'à présent. Et je ne suis pas certain qu'il soit véritablement, qu'il ait une personnalité qui le rende apte à supporter ce qu'il va très clairement devoir supporter, et surtout si son entrée en matière se fait sur des erreurs aussi grossière et catastrophique. Oui, moi je la trouve tout de même regrettable. Je trouve que c'est pas juste une petite erreur quand on est ministre d'un pays, personne n'est parfait.
Mais...
Rémi,
oui, pense.
Mais bah, maintenant tout le monde le sait.
Maintenant, espérons que...
Ah, parce qu'elle n'a pas été relevée, c'est ça que vous avez...
François Hollande, allant à Manille, faire un appel de Manille quelques mois avant la COP21 pour exhorter, parce que pendant un an il s'est fait le chantre du réchauffement climatique, a annoncé que le réchauffement climatique créait des tsunamis. Ce qui est une énormité, enfin, à ce point-là, oui, c'est pas possible.
Oui,
c'est personne ne l'a
entendu, ce truc. Oui,
personne ne l'a relevé. Personne.
Aucun climatologiste.
Derrière ceux qui lui ont préparé le discours, l'ont laissé passer. C'est aussi leur responsabilité. Aucun journaliste qui, soi-disant, aujourd'hui, il y a quand même les services environnement des journaux sont quand même un petit peu développés sur ces questions-là. On a quand même quelques personnes qui devraient s'y connaître un petit peu. Personne n'a relevé, alors qu'il y avait de quoi faire des gorges chaudes. Dans ce domaine-là, je pense que c'est assez propre à ce domaine, on a le droit de dire tout et n'importe quoi, pourvu que ça aille dans le sens du pire, pourvu que ça aille dans le sens de la peur, pourvu que ça réponde à la facilité dominante et au discours facile dominant. Ouais. On a tout le droit, donc c'est pas grave, on peut se tromper d'ordre de grandeur, on peut mélanger tout et n'importe quoi, ce sera même pas relevé.
Ouais, je comprends. La peur fait vendre, de toute façon. J'ai une question d'un auditeur hier, juste avant cette émission. Dans quelques dizaines d'années, la fonte des glaces va permettre d'ouvrir d'autres voies maritimes plus rentables pour le commerce. Certains pays se préparent déjà, d'autres vont pâtir de ce changement. Est-ce qu'on prévoit un bouleversement économique?
Moi, c'est pas de ma compétence.
Alors, sur la réalité de ça, il y a deux choses. Je pense que Rémi pourra répondre plutôt sur l'aspect économique. Est-ce que, donc, effectivement, est-ce qu'il n'y aura plus de glace dans l'Arctique à moyen terme? Si on a des données sur une grosse trentaine d'années, donc c'est très peu. Les séries de données sont jeunes. Donc, évidemment, quand on a très peu de données, ben, la moindre petite tendance, on a tendance à la prolonger, on a envie de la prolonger et annoncer qu'il n'y aura plus de banquise dans 50, dans 100 ans. En réalité, c'est difficile de le prévoir avec certitude. Je ne mettrai pas trop d'argent là-dedans, surtout que depuis quelques années, en réalité, la fonte ne se voit plus beaucoup. Il y a eu une baisse dans les années 2000, elle semble être stoppée. Est-ce que ça va repartir dans un sens ou dans l'autre? Je crois qu'on n'en sait pas assez pour l'anticiper. Toujours est-il qu'il peut y avoir une certaine rationalité à se dire, bah, si ça continue à fondre, est-ce que, après tout, pendant la guerre froide, on avait des plans d'invasion de différents pays, on ne les a pas utilisés, tant mieux, mais on prévoit un peu tout. Et je crois qu'il faut avoir conscience de ça. C'est pas parce que certains se disent, ah ben, on va voir ce qu'on peut faire si l'Arctique fond, que l'Arctique va fondre et qu'on y croit. C'est juste qu'on étudie différentes options. Celle-là en est une. Elle est pas forcément la plus raisonnable, mais elle est possible. Et pour moi, ça ne va pas plus loin.
Les manuels scolaires sont bourrés de photos sur le avant-après.
Ah hein. C'est assez inconcevable. Ça serait un sujet en soi.
Oui, hein. On y pensait d'ailleurs.
Moi, je suis comme Benoît, je ne le sais pas. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'on nous a, il y a 20 ans, très officiellement annoncé, de la façon la plus claire, que en 2010, il y aurait plus de glace et que on pourrait passer comme on voudrait. Et c'est pas vrai, c'est pas ça ce qui s'est produit. Alors, est-ce que les choses vont être différentes dans les 20 prochaines années? Ça, c'est possible, mais il faut tout de même souligner que ces prédictions ont déjà été faites et montrées comme erronées. Le deuxième point est que les glaces dans l'Arctique, ça varie beaucoup entre l'été et l'hiver. Et ce dont on parle, c'est d'avoir un passage à la fin de l'été, au mois de septembre, quand il y a le moins de glace. Mais on n'en est pas du tout à imaginer qu'on pourra passer par là avec des bateaux au mois de décembre et au mois de février et au mois de mars. Donc ça ne serait qu'une petite fenêtre. Alors évidemment, on peut toujours faire des projections, imaginer que dans 50 ans, il n'y aura plus du tout de glace. Ça, c'est... Mais enfin, il faut prendre en ligne de compte ça. Alors troisièmement, est-ce que ça engendrerait des changements économiques majeurs? Non, ça engendrerait en effet des changements, parce que pour aller du Japon ou de la Chine en Europe occidentale, ça serait plus court que de... Mais enfin, les coûts de transport par bateau sont déjà très faibles, en vérité.
C'est quand même c'est une partie... L'idée qu'on pourrait exploiter les ressources qui sont dans la région. Donc, il y a des... semble-t-il...
Oui, la question qui était posée portait sur les changements dans les flux. Et la baisse de coûts serait... Il y en aurait une, ça coûterait moins cher, parce qu'il doit y avoir... Je n'ai pas les chiffres, mais on doit passer de 10 000, de actuellement 20 000 kilomètres à 15 000 kilomètres ou quelque chose comme ça. Ça coûterait moins cher, évidemment. Mais les coûts de transport à longue distance sont très faibles, hein. On explique que le coût de transport d'une voiture de Yokohama au Havre, il est égal au coût de transport du Havre à Paris, de la même voiture. Alors diminuer, ça, c'est toujours, ça fait en effet qu'une différence, mais c'est pas à mon avis.
Non, on peut imaginer qu'il y a des ports ou le Canada qui pourrait bénéficier de ce genre de passage.
Non, c'est les flux. Le Canada, non, le pont. En transport, ce n'est pas l'endroit qui est traversé qui bénéficie le plus des améliorations. C'est les gens qui sont aux deux bouts. Donc, ça serait bon pour la Corée, la Chine et le Japon, bon pour l'Europe, parce qu'il y aurait des produits qui... Il y aurait des économies sur les coûts de transport. Mais ces économies seraient en fait assez faibles. Donc, ça aurait un impact, mais un impact secondaire, en vérité.
Et les ours, on me dit, avec l'histoire de la fonte des glaces, on nous dit qu'il n'y a plus d'ours. Alors, où est-ce qu'ils vont?
Au contraire.
Il y a de plus en plus d'ours.
Au contraire.
Il y a un professeur de l'Université de Louvain, je peux vite le citer quand même, qui s'appelle Isfan Marco, professeur de chimie de l'Université de Louvain, qui a fait des enquêtes sur le sujet. Il n'y a, à ma connaissance, d'après ses conclusions, jamais eu autant d'ours polaires qu'il y en a aujourd'hui.
C'est incroyable.
Donc c'est exactement le contraire de ce qu'on nous raconte.
Plus exactement. Ce qu'on sait, c'est que la population d'ours polaires a effectivement été menacée au milieu du XXe siècle, principalement à cause de la chasse qui n'était pas surveillée et qui on est tombé à une population totale qui était de l'ordre de 5000 ours polaires, et c'est ce qui diminuait d'année en année. Donc on était probablement autour de 5000. Il faut prendre les chiffres avec précaution, c'est des ordres de grandeur et très vagues parce que c'est difficile de compter chaque ours polaire. Et puis il y a plusieurs espèces, ils se déplacent beaucoup. Et aujourd'hui, ils sont plutôt 20-25 000, voire plus. Donc on constate une augmentation régulière de leur population, ça c'est vrai et c'est mesuré. Ils ne sont absolument pas menacés par la fonte des glaces parce que ce sont de très grands nageurs, ils peuvent nager sur des dizaines de kilomètres, ça leur pose pas de problème. Ils vivent sur la terre ferme, ils vivent pas sur la glace. Ils se nourrissent principalement au printemps, donc comme Rémi le rappelait, c'est pas du tout un moment où la glace est moins présente. Autant effectivement à l'automne, la glace a tendance à diminuer un peu d'année en année. Enfin, on a pu observer ça, même si c'est moins net aujourd'hui. Autant au mois de mars, à l'optimum, là où il y a le plus de glace, les changements sont très faibles. On observe très peu de choses. Donc, les conditions dans lesquelles les ours peuvent s'alimenter ne changent pas beaucoup. Donc, on n'est pas du tout dans un. C'est quelque chose qui est effectivement fantasme, c'est émotionnel, parce que ce sont des animaux qui effectivement ont une certaine élégance. On n'a pas envie de les tuer. C'est compréhensible, même si eux ne nous aiment pas beaucoup et nous chassent, même s'ils nous aiment un peu trop, bien cru et bien tendre.
On nous dit qu'en automne, ils se nourrissent d'êtres humains aussi.
Ah oui, ils peuvent tout à fait. Oui, ils peuvent chasser l'homme, ça c'est, ils peuvent le faire.
Il y a une Canadienne qui est une spécialiste qui vient d'écrire un roman qui raconte justement que les ours se mettent à attaquer les hommes, à les tuer, à les manger. Ils s'intéressent particulièrement à leur graisse d'ailleurs, et c'est parce qu'ils n'avaient plus assez de phoques. Et donc, c'est ce que le roman raconte, comment on monte une expédition pour aller ramasser des phoques et les jeter aux ours pour qu'ils préfèrent les phoques aux humains.
Oui, c'est Suzanne Crockford qui j'ai interrogé, que j'ai vu il y a quelques mois, et qui est quelqu'un de formidable en passant.
D'accord.
Et qui aussi m'a confirmé que les ours polaires commencent à poser des problèmes dans les villes parce qu'ils sont surprotégés. Donc on n'a plus le droit de les tuer si un être humain n'est pas menacé. Et comme ils ne sont pas idiots, ils commencent à s'approcher des villes parce qu'ils trouvent que les restes de pizza, c'est plus facile à attraper et à manger que des phoques qu'il faut aller chasser quand même, parce qu'ils ne se laissent pas toujours faire. Et aux abords de certaines villes du nord, des régions où il y a des ours, ça commence à poser des quelques problèmes.
Brigitte Bardot va nourrir les ours.
On commence à avoir trop d'ours à certains endroits.
Voilà. Évidemment, bien sûr. 100 millions, c'est l'estimation de la Banque mondiale qui prévoit que l'inaction face au réchauffement climatique va jeter à bas des 100 millions de personnes qui vont devenir pauvres.
Rappelle Kofi Annan ayant parlé de 20 millions de réfugiés climatiques en 2010, ça fait partie de ses prophéties.
Oui, donc ça augmente.
Mais c'était en 2010, on ne les a toujours pas vus, heureusement pour elle.
À l'heure actuelle, il n'y a pas de réfugiés climatiques. Le problème des réfugiés est traité par une agence des Nations Unies qui s'appelle, je ne sais plus comment, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui publie chaque année un rapport très, très bien fait, très détaillé, qui analyse quels sont les réfugiés, d'où ils viennent, dans quel pays ils vont et pourquoi ils viennent. Le mot climatique n'est cité nulle part dans les 80 pages de ce rapport. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas du tout de réfugiés climatiques.
Il y a des réfugiés, en revanche, de catastrophes naturelles.
Oui,
on mélange les deux et on les présente comme des réfugiés climatiques. Donc c'est soit des tsunamis, des tremblements de terre, ou éventuellement des événements météo. Une inondation, c'est un phénomène météo qui se produit depuis toujours, qui se produira toujours probablement, et ce sont des réfugiés météorologiques. Ça existe, mais ça n'est pas la même chose qu'un réfugié climatique. C'est toute la distinction qu'on doit faire entre la météo et le climat. De temps en temps, il fait pas beau, de temps en temps, voilà, il y a la sécheresse, etc. Ça se
aujourd'hui, c'est la météo. Et quand on parle de réfugiés climatiques, on veut dire des réfugiés causés par le réchauffement climatique. En fait, et ça, effectivement, on n'en a jamais vu aucun. Il y a eu une tentative, une fois, il y a quelques années, de quelqu'un qui vivait sur une île et qui a dû... je ne sais plus exactement le détail, et qui a voulu se faire passer pour un réfugié climatique parce qu'il avait peur que ça... Alors, ce n'est pas lui qui l'a fait. Ouais. Évidemment, il y a une ONG qui était derrière. Il y a une ONG qui a voulu l'aider à se faire reconnaître le statut de réfugié climatique auprès de la Nouvelle-Zélande. Alors que, bon, on avait affaire en réalité à un réfugié pour... Je ne sais plus si c'était économique ou effectivement... Bon, probablement une situation douloureuse, mais il avait été débouté de ses droits, et cette ONG avait trouvé intelligent et publicitaire d'instrumentaliser cette misère humaine pour ça. Mais c'est tout, il n'y en a pas d'autres. Enfin, d'abord, ça n'a pas fonctionné, et on en est à un, quoi, dans le meilleur des cas.
C'est un truc de dingue.
Mais en fait, peut-être que les gens qui nous écoutent se posent la question de savoir comment une telle chose est-elle possible. Si nous trois, nous avons raison, ça veut dire qu'on est face à un énorme processus qui est finalement de nature... profondément idéologique. Est-ce qu'une telle chose est possible? Mais alors, je crois que si nous regardons l'histoire des idées et des faits, elle accrédite cette thèse. Si on prend une idéologie comme le communisme, qu'on résume aujourd'hui à ses conséquences économiques au départ, le communisme est une idéologie qui se veut scientifique. Marx, quand on lit Marx, Le Capital, etc., c'est quelqu'un qui prétend parler au nom de la science et décrire la science de l'histoire. Et tout le monde, à l'époque... prenez Marx comme étant un scientifique et le marxisme comme étant non pas une doctrine politique, révolutionnaire ou économique, mais comme étant une doctrine scientifique. Et donc, ce qui est assez intéressant aussi de voir, c'est que le marxisme comme science avait été réfuté dès la fin du 19e siècle par des auteurs souvent qui au départ venaient du marxisme et du socialisme. Je pense à quelqu'un comme Edouard Bernstein, un réformateur, un social-démocrate, donc un homme de gauche également. Et donc, cette idéologie a pris une ampleur énorme après qu'elle eût été réfutée sur le plan intellectuel. Donc il ne suffit pas de montrer la fausseté d'une idéologie pour qu'elle cesse de sortir ses effets. Je parle ici de la fin du 19e siècle, la révolution d'octobre en URSS, enfin qui a donné naissance à l'URSS, c'est évidemment en 1917. Et donc il a fallu un siècle de plus pour que cette idéologie dans ses effets pratiques vienne à mourir.
Ouais, c'est vrai. Incroyable. Il est, ça fait déjà pas mal de temps qu'on a dépassé, en fait. Non, on n'en est pas encore à 3 heures. Une dernière question, on va revenir aux États-Unis 2 secondes. Est-ce que New York va sombrer sous les eaux? Parce qu'on a vu des images sur France Télévisions, comme quoi ils étaient en train... Et au cinéma, mais... Non, mais dans les infos de France Télé...
Dans le film d'Al Gore, on voyait Manhattan noyé sous les eaux, et effectivement, c'était parce que l'eau aurait monté de 6 mètres. Ouais, ça, et il avait oublié de préciser que c'était à l'horizon de quelques milliers d'années.
Donc tout va bien.
Oui, alors la hausse du niveau des
mers... Est-ce qu'on peut rassurer les gens? Est-ce que tout va bien?
Tout va bien.
Tout ne va pas bien.
Sur notre sujet, on est d'accord.
Des problèmes imaginaires.
On a suffisamment de problèmes.
Si on veut s'occuper des malheurs du monde, il y a de quoi faire. Malheureusement, il y a de quoi faire. On n'a pas besoin de s'inventer un faux problème. Alors, effectivement, il y a des inondations, il y a des sécheresses, il y a... Ça se produit, ça se traite, et ça se traite principalement par l'adaptation, comme on l'a toujours fait. S'il pleut, quand je sortirai de ce studio, j'ouvrirai mon parapluie. On l'a toujours fait, donc c'est pas nouveau, on sait faire. On est bien mieux armé aujourd'hui qu'on l'était par le passé pour faire face aux caprices du temps, même si ça se réchauffe un peu, même si l'océan monte un peu. Bon, il a déjà monté au 20e siècle, on s'est habitué, on s'est très bien adapté. Donc on ne manque pas d'outils pour s'adapter s'il y a lieu de le faire. Et simplement, si on doit s'adapter, adaptons-nous quand les problèmes deviennent réels, disons, et n'anticipons pas au motif d'adaptation, n'anticipons pas des catastrophes et des problèmes imaginaires qui nous coûteront très cher pour nous adapter et qui ne donneront rien ou qui se révéleront inutiles.
Un dernier message philosophique?
Ah non, je trouve que le message ici qui vient d'être énoncé est parfait. Je crois que nous devons être attentifs aux vrais problèmes de notre société, et notamment la pauvreté. Le fait que cette énorme idéologie frappe finalement en priorité des gens qui sont déjà souvent au départ dans une situation de précarité est profondément insupportable. C'est tout.
L'argent que l'on met dans des choses inutiles, c'est de l'argent que l'on n'a pas pour résoudre des problèmes qui sont des problèmes très réels, en particulier d'ailleurs des problèmes médicaux. Je crois que les problèmes les plus graves, c'est des problèmes de santé dans les pays pauvres aujourd'hui. Et s'il y a 100 milliards à mettre, il vaut mieux les mettre là-dedans que les mettre dans empêcher les Africains de se... d'avoir de l'électricité avec du charbon.
Nous sommes d'accord.
Si si on peut effectivement conclure, je ne sais pas si c'est philosophique, Drieu me dira si c'est philosophique ou pas, mais on doit aussi, je crois, réapprendre l'idée, que ce soit notamment pour la vie des citoyens et le débat politique, que le monde n'est pas fait que de problèmes à résoudre. Il est aussi fait de belles ambitions à porter, de projets, d'ambitions pour la société, pour l'humanité. Je crois que le problème du climat, il nous force aussi à nous. Parce qu'on pose souvent la question alors, si c'est pas le climat, c'est quoi qui va mal ? Comme s'il fallait absolument que quelque chose aille mal. Alors, évidemment, on est bien d'accord qu'il y a des choses qui vont mal, mais il y a aussi de belles choses à inventer, il y a aussi de belles choses à faire, et il faudrait regarder de ce côté-là aussi, je pense.
Messieurs, merci beaucoup, vraiment.
Merci à toi.
Ouais, non, mais vraiment, merci beaucoup. On va mettre à chaque fois vos ouvrages ou vos derniers... parfois, vous écrivez des articles. On va mettre ça sur la page Facebook, évidemment. Drieu Gosfridi, merci beaucoup.
Merci.
Ce serait bien qu'on se revoie pour un prochain live. Merci beaucoup, Rémi Prudhomme.
Merci à toi.
À la prochaine. Oui. Je crois que le prochain live, ce serait bien qu'on fasse l'histoire des changements climatiques et les changements climatiques dans l'histoire.
Oui,
ça serait intéressant. Parce qu'il y a de quoi dire. Ça, c'est déjà produit. Mm-hmm. Et ça se reproduira encore, comme dirait l'autre.
Ce n'est pas principalement mon domaine, mais
on trouvera. En tout cas, c'est des questions qui intéressent pas mal de monde. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, à la prochaine. Merci.